Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Toujours très heureux d'être avec vous. Évidemment, on a parlé du 15 de France il y a quelques instants. Toujours avec Simon Dutin, Fred Veil, Julien Beneteau et Pascal Dubras. Car les Bleus, le 15 de France, disputent actuellement le premier test match. Ça vient de repartir. Et c'est pour le 15 de France, Julien Richard.
Gabin-Villiers, l'essai français, le deuxième de la partie. Superbe essai. Gabin-Villiers, ils ont tordu la défense des Blacks qui a scellé donc le score 21-18 après seulement 2 minutes 30 de jouer en seconde période donc dans ce Nouvelle-Zélande France à Dunedin, 21-18 avant la transformation donc pour toujours la Nouvelle-Zélande qui avait creusé l'écart avant la fin de la première période. Ils reviennent bien les Bleus, 43e, 21-18.
Et quelle séquence Julien, c'est pas ballon de récupération
je dirais qu'ils ont enchaîné les temps de jeu et ça s'est fini par s'ouvrir et donc à la conclusion une passe de Joris Second pour Gabin-Villiers qui n'était même pas complètement collé à son aile hein, comme on a l'habitude de le voir et qui est allé plonger avec gourmandise dans l'embute. La transformation de Nolan Le Garec, elle passe 21-20, les Bleus à un point des Blacks en début de seconde période.
Incroyable performance du 15 de France, on va continuer d'en parler dans cette émission. C'est toujours très étrange de voir le public avec des bonnets, des doudounes. Oui, c'est l'hiver en Nouvelle-Zélande, il fait assez froid et c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette habitude en plein mois de juillet, nous qui parlions depuis quelques jours, depuis plusieurs jours, de la canicule. Oui, je vous fais un point météo, c'était très intéressant.
Il y a le point circulation après
ça arrive dans 5 minutes. Je te fais tout ça, bison futé, évidemment, on peut toujours penser à eux et leur faire confiance. Dans quelques instants, les copains, le bras de fer des GG, on va parler du quart de finale de la Coupe du Monde des clubs entre le PSG et le Bayern de Munich, 10h30. On est samedi et il n'y a plus de Français à Wimbledon, mais des exploits tout de même en première semaine. Est-ce que ça sauve le Wimbledon des Français? Et puis 10h45, mais GG, vous prenez les commandes de cette émission en nous proposant un débat. Vous avez 15 secondes pour nous le vendre et nous le vendre bien. Fred Weiss, tu veux parler de quoi ce matin?
Je vais parler d'un sport, parce qu'on en a marre des sports de hangar.
Oh non.
J'ai envie de parler de football et pas de basket. J'en ai marre du basket.
Très bien.
On en parle tout le temps
Merci.
De cette émission.
Enfin.
Il faut arrêter. Et justement, comme tu vas partir, j'ai envie de changer
gagner,
un petit peu le sujet.
Du foot,
et donc j'ai choisi. La Coupe du Monde va bientôt arriver. On connaît que l'appétence du public américain pour le football, proche du néant absolu. Donc je me pose la question, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la Coupe du Monde, justement?
Ok, dans un an, pour la Coupe du Monde, déjà, les perspectives, les projections,
bien sûr,
le visionnaire Fred Veil, quelque part.
Exactement, football, visionnaire, c'est ça me résume.
Et pas de basket, merci. Julien Beneteau, pas de basket, toi
hein? Eh ben si, pas de basket. Et un garçon à l'honneur qui a brillé l'année dernière aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France, c'est Gershon Yabusele. Et qui avait fait un choix, je voudrais revenir sur le choix qu'il a et le pari qu'il avait pris en renonçant à son contrat avec le Real Madrid pour se redonner une chance de briller en NBA, ce qu'il a fait. Et du coup, il signe au New York Knicks avec une réelle chance peut-être de titre, en tout cas de finale de conférence dès l'année prochaine. Et c'est peut-être pas fini parce que dans son contrat, il a l'option pour sa deuxième année de pouvoir partir ailleurs et dans une autre grande franchise. Donc je voudrais signaler ce pari, ce choix purement sportif à l'heure où il y a dans d'autres sports, on part en Arabie Saoudite à 28 ans.
Très bien.
Pour d'autres raisons.
Gerson Yabusele, tu veux en parler, Julien Beneteau, Simon Dutin.
Il y avait 4 Espagnols, je crois, au troisième tour de Wimbledon cette année. C'est plus qu'au troisième tour à Roland-Garros. Est-ce que, alors même sans tirer de conclusion hâtive, c'est le symbole de la disparition du tennis d'attaque où sont passés les Tim Edman, les Patrick Rafter, les Stefan Edberg, les Boris Becker, les Roger Federer. Bon, voilà, ça entretient ma désaffection. Voilà, récente pour le tennis de haut niveau. Et j'ai envie de demander aux copains si eux aussi ils regrettent la disparition des grands attaquants.
Oh, tu veux avoir la voix de Julien Beneteau. Pascal Dupraz.
Moi, je vais vous parler de tennis et de management.
Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, là?
J'ai lu la déclaration de Goran Ivazinevic, qui est le nouvel entraîneur depuis la saison sur herbe de Tsitsipas, le grec. Il l'a allumé en conférence de presse après sa défaite au premier tour par abandon contre Valentin Royer. Il l'a allumé à tel point qu'il a dit qu'il était plus en forme, lui, à son âge, malgré un genou cagneux, que le joueur Tsitsipas. Donc, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que ce genre de management est catastrophique ou salutaire pour la rédemption du joueur?
Eh bien voilà, deux débats tennis incroyables dans cette émission, deux propositions signées Pascal Duprat et Simon Dutin. C'est vrai que Pascal, cette phrase a beaucoup fait parler. Si vous voulez en parler, vous allez sur le compte X des Grandes Gueules du Sport et vous votez pour votre débat préféré. Une pluie d'essais en Nouvelle-Zélande, les All Blacks qui reprennent les devants, Julien Richard.
Oui, la réponse quasi immédiate, l'essai et le doublé de Will Jordan. Quatrième essai marqué par les Néo-Zélandais, la transformation à l'instant de Boden Barrett qui passe le score 28 pour les Blacks, 20 pour l'équipe de France. Les Néo-Zélandais reprennent un peu le large dans ce match à Dunedin.
Merci beaucoup mon cher Julien Richard, à tout à l'heure. Sachez qu'à partir de 11h on retournera à Lille pour le grand départ du Tour de France. Nous parlerons des Français. Alain Monnier a dit un jour: celui qui emporte un enjeu que nul ne convoite n'est qu'un perdant.
RMC, le bras de fer GG.
C'est le début des grandes vacances.
Le bout parisien, il était tout seul au deuxième poteau. Il est petit, mais il est décisif. C'est Joao Neves.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je croyais qu'on était censé être en vacances.
Nous devons rester concentrés sur cette compétition. Les vacances ou les prochaines saisons, ça ne m'intéresse pas.
Non, ça va. J'ai compris l'idée générale. On va pas passer les vacances avec ça.
Fabien Ruiz, pour Joao Neves, 2-0 pour le Paris Saint-Germain.
Parce que là, vous êtes en vacances, Fabien. Mais à la rentrée,
on n'est pas en vacances.
Et ça fait 3. Kvichak Varatstrelia.
J'ai besoin de vacances.
Bradley Barcola, il est tout seul, il va passer en retrait pour Hakimi la barre. Et non, il va marquer en deux temps. Et en plus, le PSG a de la chance. Le PSG est en train de concasser l'Inter Miami.
Mes vacances sont terminées.
J'ai besoin de vacances. J'ai besoin de...
Après une saison sublime et riche de 4 trophées, le PSG va tenter de se qualifier cet après-midi à 18h pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs. Un premier gros choc pour les Parisiens dans ce mondial opposé au Bayern Munich. PSG-Bayern Munich, l'enjeu est-il grand? C'est notre bras de fer ce matin dans les grandes gueules du sport. Dans le coin gauche, la team Oui, représentée par Pascal Duprat. Et c'est tout. Dans le coin droit, la team Non, Fred Veil, Simon Dutin, Julien Beneteau. Avant de débattre, on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux à Atlanta, Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut les GG, salut à tous.
Alors
salut.
Comment les Parisiens abordent ce choc?
Avec à la fois de la détermination et de la prudence en coulisses, le groupe parisien est à bloc et a minutieusement préparé le choc de cet après-midi. Le président du club, Nasser Al Khelaifi, optimiste.
Je pense que le joueur, le coach, tout le monde est motivé, fier de mon joueur. J'ai un soldat, on est guerrière, on a vraiment 23, 24 guerrières à battre avec le coach, avec le coach, avec le sport advisor, tout le monde concentré, tout le monde motivé pour cette compétition, match par match, pour aller le plus loin. C'est le plus important.
Mais l'ensemble de l'effectif parisien se montre très craintif envers le Bayern Munich. Une équipe solide, très physique, déjà victorieuse face au PSG en novembre dernier en Ligue des Champions. L'attaquant Bradley Barcola prêt à en découdre.
C'est notre plus grande source de motivation aujourd'hui. C'est vraiment un sentiment de revanche. C'est vrai que quand on avait perdu chez eux, ça a été très dur pour nous. C'est pour ça qu'on a vraiment un sentiment de vouloir gagner demain. Je pense que cette défaite, ça nous a fait mal. Et ça nous a fait prendre conscience qu'à ce moment-là, on n'avait plus beaucoup de chance pour continuer en Ligue des Champions. Et ça nous a encore plus motivés, donc on va être motivés encore plus.
Pour y parvenir, Paris peut compter sur le retour de son attaquant star, Ousmane Dembélé, presque un mois jour pour jour après sa blessure à la cuisse gauche. L'international français veut aller loin dans cette compétition.
Que j'aime jouer au football, surtout regarder son équipe en tribune, c'est pas facile. Puis voilà, j'ai envie d'aider l'équipe à gagner ce titre aussi pour faire une grande compétition.
Au PSG, on explique qu'en cas de qualification ce soir et d'une longue aventure aux USA, le club pourra se dire la boucle est bouclée dans une saison où le champion d'Europe aura écarté les plus grosses écuries européennes, dont le Real Madrid qui l'attend peut-être en demi-finale à New York.
Et oui, le statut peut-être à jouer pour le Paris Saint-Germain dès cet après-midi face au Bayern Munich. Merci beaucoup Arthur Perrault. On te retrouve tout au long de la journée et donc à 18h pour cette grande affiche. Avant de débattre, l'enjeu est-il grand? On retourne en Nouvelle-Zélande. Essai pour le 15 de France, Julien Richard.
Ah, ils sont super, ces bleus qui jouent en blanc ici à Dunedin. Ils recollent au score donc avec l'essai de Cameron Wauquiez, coaching gagnant pour Fabien Galthié qui a fait rentrer du sang en frais une minute avant ce troisième essai marqué par les bleus. 28-27 pour la Nouvelle-Zélande, un point d'avance pour les Blacks face à la France. 50e minute de jeu.
Merci beaucoup, quel match, merci Julien Richard de nous le faire vivre ce matin dans les grandes gueules du sport sur RMC. Alors on vous a posé cette question, hein, l'enjeu est-il grand sur le compte X des grandes gueules du sport? 24% oui, 76% non. Pascal, tu es vraiment quasiment tout seul. C'est toi qui débutes. Pourquoi c'est important ?
Je suis tout seul, mais je comprends pas pourquoi je suis tout seul, et notamment les anciens sportifs qui sont sur le plateau avec nous. En fait, c'est une nouvelle compétition, donc tout ce qui est neuf effraie un peu. On aime bien l'habitude. Mais on est en train de s'interroger si le PSG ou si le Bayern, si les joueurs ou si l'entourage du club, si les dirigeants ont pas envie d'aller loin dans cette compétition nouvelle qu'est la Coupe du Monde des clubs. Il y a que vous qui vous interrogez, en fait. Parce que ils ont envie de la gagner. Le PSG, ça fait depuis 2021 qu'ils n'ont pas battu le Bayern. Depuis 2021, en football, ça fait, en sport de haut niveau, ça fait une éternité. Ils l'ont rappelé, le 25 novembre dernier, ils ont perdu 1-0 à Munich. Et en plus, Dembélé a été expulsé ce jour-là. Voilà pas que Dembélé est pressenti pour jouer, pour retrouver son poste. Et lui, il a une perspective. Il en parle pas, mais ses coéquipiers, son club, son entourage en parlent pour lui. C'est le Ballon d'Or. Parce que pendant qu'Yamal, lui, est en vacances, lui, il a peut-être la possibilité de marquer encore les esprits de tous ceux qui vont voter pour le Ballon d'Or. Ce qui couronnerait, en plus, si jamais le PSG venait à gagner cette épreuve, si en plus il remporte le Ballon d'Or, ça couronnerait une saison exceptionnelle. Donc arrêtez de vous poser les questions si ça a de l'enjeu ou pas. Bien sûr qu'il y a de l'enjeu. Bien sûr que le Bayern veut tordre le Paris Saint-Germain. Bien sûr. Alors le problème, c'est que cette fois-ci, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est à 18h que ça se passe. Et moi, je suis curieux de savoir l'audience. Et je voudrais voir si le PSG passait en quart de finale. Je voudrais savoir ce qu'il en serait contre le Real, si jamais c'est le Real en demi. Et ainsi de suite. Je voudrais voir si ça serait une compétition de pacotille pour les trois garçons qui sont assis confortablement autour de la table du plateau. J'aimerais voir ça.
Ok, vous avez été interpellé, brillant comme à chaque fois, Pascal Duprat. Qui veut répondre ? Simon Dutin.
Ouais, on tombe pas de l'échelle. Pascal, il nous surjoue un peu l'indignation. Comment ça, vous intéressez pas à un PSG Bayern ? Oui.
En juillet.
Oui, c'est
en juillet. Il faut se rappeler quand même du contexte aussi en juillet, hein, juste avant les vacances. À 18h, un samedi.
Je vais me parler des vacances.
Pascal, l'enjeu il est financier, on le sait, il y aura une petite ligne sur le palmarès, à jamais les premiers à avoir remporté cette Coupe du Monde des clubs.
D'ailleurs, s'ils gagnent, ils vont aller sur les Champs-Élysées pour défiler, hein, d'ailleurs.
Survendus, les Parisiens, ils étaient en tournée post-Ligue des Champions, tournée triomphale, ils s'entraînaient pas l'après-midi, ils étaient en famille, ils faisaient du shopping pendant les trois premières semaines. Donc Pascal, on nous la raconte comme on veut, cette histoire, cette compétition, elle n'est pas fondamentale pour le Paris Saint-Germain, je suis d'accord avec toi. Peut-être que Dembélé a quelque chose à jouer dans la course au Ballon d'Or, d'autant plus qu'on fait...
Ça m'assure.
D'autant plus qu'on fait all-in côté Paris, sur le modèle du Real Madrid.
Simon, t'es le seul puriste parmi les gars qui sont autour de la table. Tu me déçois fortement.
Pas du tout, parce qu'il y en a un deuxième qui va te décevoir.
En plus, dans cette histoire, moi, ça m'agace parce que je mets Vitinha, voire et Hakimi devant Dembélé dans la course au Ballon d'Or.
En plus, ça va diluer juste les forces pour tout le monde, ça va être encore plus compliqué pour eux.
Voilà, après évidemment qu'on a envie de que le PSG confirme que c'est bien la meilleure équipe du monde ou au moins d'Europe et batte le Bayern. Bien sûr qu'on a envie que le PSG retrouve éventuellement Mbappé en demi-finale, mais bon, si je sais pas si encore tu vois, s'ils perdent contre le Bayern, qu'on dira, ils sont fatigués,
c'est la fin de saison. Qu'est-ce qu'on retiendra de cette compétition, l'enjeu?
Les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont fatigués. Tous les joueurs sont fatigués à cette période de l'année. Or, vous avez affaire à des compétiteurs.
Oui, mais les compétiteurs qui s'entraînent. Les Parisiens, ils ont mangé à leur faim, ils sont rassasiés, Pascal. Ils ont remporté la Ligue des Champions, ils s'en foutent.
Mais depuis le début de la Coupe du Monde, des clubs, tu les vois rassasiés, les Parisiens?
Oui.
Ils le disent à qui veulent entendre, ils veulent la gagner.
Ils vont pas nous dire qu'ils veulent la perdre.
Mais quand t'as un compétiteur, évidemment,
mais regardez les attitudes,
c'est logique.
Mais Julien Benneteau,
qu'ils aient envie de la gagner, que les joueurs parisiens aient envie de la gagner, que le club, les dirigeants du PSG aient envie de la gagner, parce qu'il y a 110 ou 115 ou 120 millions à la clé. Ok. La question, le débat, c'est l'enjeu est-il grand dans la saison du PSG? Ce match,
bien sûr que non,
a beaucoup moins d'enjeux. Le vrai enjeu, c'était en quart. Le vrai enjeu, c'était en quart ou en demi de la Ligue des Champions.
Évidemment.
Là, il y avait un enjeu déterminant pour le PSG. Là, c'est la fin de la saison. C'est il y a pas d'enjeu.
Bennett, la semaine dernière, t'étais oxy parce que t'avais fait la piste la veille avec ton tournoi de tennis, je ne sais où. Là, t'es en train de me dire quoi là à l'instant? Que ça a pas d'enjeu le fait de d'accéder au dernier carré de la première Coupe du Monde des clubs? Mais c'est quoi ce travail? Mais oh, mais prenez un cachet les enfants.
Je pense qu'il est un peu excité. Mais moi,
est-ce qu'il y a un peu ce parfum de la Ligue des Champions tout de même?
Non. La Ligue des Champions, elle appartient au PSG et c'est tout ce qui compte. Alors, je suis désolé, hein, j'ai parlé vraiment très crûment. Je m'en fous complètement de cette compétition. Alors oui, je peux faire plus cru, mais j'essaie de me retenir.
Tu peux faire mieux, rassure-moi.
Oui, je peux faire mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il n'a aucun intérêt. Parce que si Paris perd, est-ce que vous pensez qu'on dira qu'ils n'ont pas réussi leur saison?
Bien sûr.
Mais bien sûr que non.
Tout ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Cet argument-là.
Bien sûr que si, Pascal. Si c'est un grand événement, c'est quand tu perds, c'est une catastrophe. C'est loin d'être une catastrophe. Au contraire, on s'en fout.
Mais c'est un événement parce que tu joues le Bayern Munich, un des cinq meilleurs clubs du monde, en quart de finale de la première édition de la Coupe du Monde des clubs.
Toi, c'est un compétition légendaire, Pascal, qui pue l'histoire du foot et la tradition.
Mais on en reparlera dans quelques années. Laisse-la venir en Europe et on en reparlera.
Il va falloir battre soit Fluminense, soit Chelsea en finale. Et alors ça, c'est pareil,
D'abord le Real en demi.
Ça sent le match de légende.
Et tu seras devant ta télé avec ton paquet de chips à trépigner.
J'ai pas dit le contraire, peut-être deux paquets de chips.
Mais Fluminense
en finale. Je suis désolé que Chelsea soit en position de disputer la finale lorsque tu vois le début de compétition de Chelsea qui est grotesque, lorsque tu vois la façon dont ils se sont fait piétiné par Flamengo en match de poule. Je suis désolé, ça ne relève d'aucune logique sportive. Je l'ai suffisamment répété, le processus de sélection est absolument illisible. On ne sait pas comment on se qualifie, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas pourquoi ceux qui ne sont pas là sont pas là. Pascal, évidemment que Paris a envie de battre le Bayern et qu'on a envie de voir Paris battre le Bayern, mais il n'y a pas d'enjeu fondamental pour le PSG.
Je reprends la main parce qu'on va faire évoluer ce débat, parce qu'il y a quelque chose. Vous avez parlé du Ballon d'Or, d'Ousmane Dembélé qui va faire son retour, qui joue avec cette équipe. Et hier, nos équipes d'RMC ont retrouvé le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Et je sais que ça va te faire bondir, mais voici ce qu'il a dit à notre micro. Nasser Al-Khelaifi.
Ousmane, la saison l'a fait. C'est magnifique. C'est aucun doute. Il ne gagne pas la Ballon d'Or. S'il ne gagne pas, c'est le problème. Parce qu'il a fait tout.
S'il ne gagne pas de Ballon d'Or, c'est un problème.
On est au mois de juillet, il ne parle que de ça. Les récompenses individuelles dans un sport collectif, ça m'horripile.
Les votes s'arrêtent en fin août.
Et là, ils font que ça tous maintenant. L'année dernière, le Real, le scandale, Vinicius, il ne l'a pas eu, on ne vient pas à la cérémonie. Là, Nasser, si c'est pas où ça. Mais dans quel monde on est tombé? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer à la vie du PSG?
Regarde, le Barça le faisait avec Yamal.
Non, mais c'est normal de soutenir.
Bien que le PSG
soit avec toi, là, par contre,
c'est
pas du tout.
Quelle connerie, ça,
de gagner le Ballon d'Or, parce que ça représente quelque chose d'être Ballon d'Or. Donc je pense que le club doit le soutenir et sur ça, moi je pense qu'ils ont complètement raison.
L'individualisme du football,
c'est une autre question, Pascal.
Ce lobbying, comme on l'appelle, ne sert à rien. On l'a vu les dernières années et on l'a vu encore la saison dernière. Il n'est même pas interdit de penser que ça a desservi les intérêts de Vinicius, toute la communication, la propagande du Real pour son joueur.
Hier, il y avait déjà des articles qui disaient attention pour Dembélé à la dilution des voix. Donc là, on a l'impression que c'est l'élection présidentielle, qu'il y a 14 candidats à gauche, que les voix vont se diluer et que ça va. Non, mais là, il faut arrêter, quoi. Au bout d'un moment. Ça va, c'est du foot.
Il mérite comme Yamal le Ballon d'Or, tout simplement. Tu n'as beau ne pas aimer, ce trophée existe depuis la nuit des temps. Donc
non, j'ai aimé ce trophée, mais je trouve que
il rend fou les clubs maintenant.
Exactement, je trouve que depuis certaines années, depuis un petit à la fin de la guéguerre Ronaldo-Messi, les clubs sont devenus fous. Les coéquipiers on sent que les coéquipiers
la valeur, ce trophée.
Obligés de dire il faut ci, il faut ça. Alors qu'avant, on entendait moins, ça récompensait vraiment un beau joueur, un truc. Là, aujourd'hui, c'est l'impression que c'est un lobbying, comme tu dis, Simon, qui est terrible. Quoi.
En revanche, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est de dire Dembélé, attention, son quart de finale, c'est important pour le Ballon d'Or. Enfin, il a tellement montré de choses durant la saison qu'on s'en fout maintenant. Je veux dire, qui marque ou qui marque pas, il mérite le Ballon d'Or.
Un match qui ne sert à rien, qui n'a aucune utilité. N'est-ce pas, Pascal ?
La tendance est pour Yamal. Or, en fait, le haut niveau a horreur du vide. Yamal, lui, est en vacances. Dembélé a la possibilité de marquer encore le coup. C'est tout. Il ne va pas se mettre de pression pour ça. Mais s'il fait une fin de Coupe du Monde des clubs à son niveau de la saison, eh bien, il se rapproche du Ballon d'Or, tout simplement. Alors qu'on aime le Ballon d'Or ou pas, ce que je viens de dire, Yamal, il joue pas. Lui, il peut jouer. Imaginons qu'aujourd'hui, il fasse un hat-trick, okay, et qu'il marque encore en demi et finale. La question ne se posera plus.
Ok, ça peut jouer. Luc nous appelle au 32-16, il veut participer à notre débat. Salut Luc.
Salut, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, mon cher Luc. L'enjeu est-il grand ou tu veux parler du Ballon d'Or?
Pourquoi pas les deux?
Oui, pourquoi pas les deux, vas-y.
Déjà, l'enjeu, pour moi, il est grand, malgré tout, pour le Paris Saint-Germain.
Yes,
il est grand parce que c'est l'occasion pour nous, je suis supporter parisien, donc je dis nous, donc c'est l'occasion pour nous de valider déjà notre victoire en Ligue des Champions.
Validé, t'as pas besoin de la revalider.
Laissez-le parler tout de même.
Je vais y venir. En fait, il y a cette volonté chez nous, supporters, et chez nous, au club, et chez les joueurs, ça se voit. Il y a cette volonté, en fait, de vouloir continuer à dominer et à choquer le monde du football. Et on voit depuis le début de la compétition, mis à part le match où Luis Enrique a fait un peu tourner, que l'équipe en fait joue vraiment pour gagner la compétition. Et si on perd contre le Bayern Munich, ce sera pas parce que on a un peu bazardé la compétition. Ce sera vraiment parce qu'on aura été moins bon. Parce que c'est sûr et certain, l'équipe va jouer pour gagner. Donc si on perd, ce sera parce que sportivement on a été moins bon. Et en ça, ce sera très décevant. Donc voilà pourquoi l'enjeu est grand. On joue pour gagner, donc il faut gagner. Et il faut qu'on montre qu'on est toujours dominant et qu'on est la meilleure équipe du monde, quoi.
Eh bien voilà, nous avons trouvé une personne en France d'accord avec Pascal Duprat et on est très heureux. C'était Luc qui a composé le 32-16. Évidemment, ce match est à suivre sur RMC à partir de 18h. C'est juste après l'étape du Tour de France. Mais sinon, que vous le savez parfaitement, c'est à suivre sur notre radio digitale 100% Coupe du Monde des clubs. Vous téléchargez l'application et vous pouvez suivre évidemment aux commentaires tous les reporters d'RMC sur cette rencontre PSG Bayern Munich. Nous, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Un point sur le match du 15 de France face à la Nouvelle-Zélande. Premier test match de cette tournée néo-zélandaise, Julien Richard.
Et toujours ce point d'avance pour les All Blacks, 28-27. On approche de l'heure de jeu et coup dur pour l'équipe de France puisque Gabin Villière, depuis 5 minutes, est sur le banc. Carton jaune, un avant volontaire. Donc les Bleus à 14 contre 15. Ils ont pris un essai, ils ont encaissé un essai, mais qui a été refusé après vidéo. C'était pas hyper évident, mais ils ont pu souffler les Bleus. Un point de retard pour l'équipe de France, héroïque sur la pelouse du Dédine pour l'instant, 28-27 pour les All Blacks.
C'est extrêmement serré, il reste 20 minutes et vous allez suivre ça sur RMC. On se retrouve dans quelques instants pour parler de Wimbledon. Il n'y a déjà plus de Français, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Personnellement, les fessés, ça me plaît pas trop. Peut-être certaines personnes qui s'en réjouissent de prendre des fessés, pas moi.
Les grandes gueules du sport
qui ferment leur gueule jusqu'à la fin de saison prochaine.
Il n'y a pas d'autre choix, encore une fois, comme la digitalisation.
Gna gna gna, on s'en fout.
Jean-Christophe Drouet.
Avec Pascal Duprat qui nous parle d'une passion cachée, peut-être. Julien Beneteau, Fred Weiss, Simon Dutin dans cette émission et peut-être un essai pour la Nouvelle-Zélande, Julien Richard. Mais il y a la vidéo.
Une nouvelle fois avec peut-être le triplé pour Will Jordan. Néo-Zélandais. Le score donc peut-être de 33-27 pour les All Blacks, mais on est en train de voir une potentielle obstruction sur l'action qui a mené à cet essai. S'il est annulé, ça ferait deux de coup sur coup, hein, alors que les Bleus sont encore en infériorité numérique pour quelques instants à 14 contre 15.
Ça va pas être accordé, Fred. Il y a un écran là quand même.
Oui, bien sûr.
Okay. Ouais. C'est quand on sait rien dire, quand on veut pas parler,
oui,
on dit
sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien
en tout sûr. Cas, l'arbitre est en train d'expliquer sa décision aux Néo-Zélandais et visiblement, il n'y a pas essai. C'est ce qu'il montre. Pas d'essai, et ben ils tiennent le coup. C'est presque du miracle là, hein, désormais, parce qu'ils prennent des vagues, les Français, et les vagues néo-zélandaises. Pas d'essai donc, 28-27, toujours ce point d'avance pour les All Blacks face à l'équipe de France, alors que les Bleus vont rejouer à 15 contre 15 dans quelques secondes maintenant, et qu'il va rester un quart d'heure.
Un quart d'heure, parfait. On sera avec toi, évidemment.
Très très bonne décision.
Oui, oui. Merci beaucoup Fred pour cette analyse. Allez, tout ce film le donne.
RMC, le dossier des GG.
Alors, il y a une semaine, lorsque nous débriefions le tirage au sort des Français à Wimbledon, on ne donnait pas cher de la peau des tricolores. Limite, on s'interrogeait à changer de billet retour d'Eric Salio. Mardi serait peut-être suffisant. Et puis, miracle, Bonzi a sorti Medvedev, Rinderknecht a éliminé Zverev. Malheureusement, après ce vendredi noir, c'était hier, il n'y a plus de Français sur le gazon londonien. Eric Salio, qui n'a pas changé finalement son billet, est avec nous. Salut Eric.
Good morning.
1, 2, 3 exploits, on y a cru Eric.
Alors, pour dresser le bilan des Bleus à Wimbledon, Ivan Ljubicic, le responsable du haut niveau, a trouvé la formule parfaite.
Individuellement, oui, globalement pas.
Oui, c'est tout le paradoxe. Les Français ont grandement contribué au jeu de massacre des têtes de série. Comment oublier l'émotion d'Arthur Rinderknecht, tombeur de Sacha Zverev?
Là, je l'aurais à vie sur mon CV, quoi, d'avoir gagné, battu un numéro 3 mondial sur le cours central de Wim.
Benjamin Bonzi, lui, a dégommé Daniil Medvedev, demi-finaliste l'an dernier.
Bien sûr, c'est la plus belle. Je trouve ça spécial de le faire ici, sur ce site. C'est la première fois que je mettais les pieds sur le cours 2 et franchement, bonne expérience.
Issus des qualifs, Diane Paris et Elsa Jacquemot ont respectivement sorti la 15e et la 29e mondiale. On s'était pris à rêver, mais les contrariétés se sont enchaînées. Gaël Monfils est passé à 2 points de la qualification face à un occluseur hongrois. C'est le début d'un Black Friday. Diane Paris a sombré face à une Anglaise. Adrian Manarino a été saoulé de coups par Andrei Rublev. Et Arthur Rinderknecht, après 2 marathons, a calé physiquement face à un Polonais classé au-delà de la 100e place mondiale.
Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui on était à armes égales physiquement avec mon adversaire? Bah, sûrement que non. Est-ce que tant bien même j'aurais pu gagner, sûrement que oui. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça.
Et c'est à ce moment qu'il faut rappeler la statistique qui fait mal. Le dernier Français à avoir atteint un quart de finale en Grand Chelem, c'est Gaël Monfils en 2022 à l'Open d'Australie. On croise les doigts pour l'US Open avec le retour espéré d'Arthur Fils.
Merci Eric Salio, tu restes avec nous pour ce débat. Il va falloir répondre à cette question parce qu'il y a eu des exploits, je le disais en début de semaine, et Eric nous les a rappelés, ces exploits. Est-ce qu'il sauve le Wimbledon des Français, oui ou non? Julien Beletto.
Non, pas entièrement.
Pas là, non, pas là. Pascal Duprat.
Oui.
Oui, Simon Dutin.
Oui. Non.
Fred Weiss, non. 1-2 contre 2 dans cette émission. On va commencer avec Julien, je suis étonné. Pourquoi non, Julien?
Non, parce que quand on n'a aucun Français, homme ou femme, au-delà du troisième tour, on ne peut pas dire que c'est un grand chelem réussi. Même si chez les filles, on n'en avait qu'une ou deux dans le tableau final directement, et que chez les hommes, on avait un seul joueur tête de série dans les 32 premiers, qui était Hugo Humbert, qui a perdu contre Gaël Monfils, au premier tour. Voilà, pour certains Français, c'est un très bon Wimbledon. Pour Rinderknecht, pour Diane Paris, voilà. Mais si on prend la vue d'ensemble, voilà, le vendredi de la première semaine, il n'y a plus personne, donc c'est un peu décevant. Voilà.
Ok, Pascal Duprat.
Tu peux pas départir du fait que le leader Arthur Fils, il est forfait avant la compétition. Ouais. Tu es obligé de prendre ça en compte.
Aussi,
mais tu peux pas dire que les Français ont pas réalisé des exploits. Donc j'arrive pas à comprendre individuellement, collectif, c'est quoi ce travail là. Ils sont bien seuls sur le cours, non? C'est bien leur classement qu'ils veulent améliorer.
Oui, mais on n'a pas un Français en deuxième semaine. Donc forcément, c'est peut-être
pas possible. Tu as pas Arthur Fils qui est le meilleur. Donc,
d'accord, mais on n'a pas d'autres non plus. L'année dernière, on a trois en huitième, Pascal.
Si Rinderknecht, il n'a pas ses problèmes athlétiques, je pense qu'il passe.
Oui, mais oui. Voilà. Non, mais même en ayant perdu,
il a été éblouissant. Pour lui, c'est un très bon tournoi. Tu ne peux pas dire qu'il n'a pas été bon. Ben voilà.
Non, mais c'est surtout, je le rappelais.
Donc ça fait un Français déjà.
On ne s'attendait absolument pas à ça. Vas-y, Pascal.
Les filles, pareil, ce qu'elles ont accompli, c'est bien. Individuellement, certes, mais c'est bien. alors il n'y a pas de Français en deuxième semaine. Ben, on a l'impression que ça nous arrive jamais ces dernières années. Ça nous arrive souvent. Ça nous arrive souvent de ne pas être en deuxième semaine avec des résultats catastrophiques.
Et ça ne nous empêche pas de regarder, de se régaler.
On ne peut pas dire que les résultats des Français étaient neutres cette fois-ci. Voilà, c'est mon point de vue, je le défends.
Eh bien, merci, Simon Dutin est d'accord avec toi.
Mais oui, bah, sinon on ne regarderait pas. Bon, voilà, Fred Veil, c'est un ténix, évidemment, comme on dit dans le jargon. Lui, il veut qu'on rapporte la coupe, il veut qu'on soulève le trophée. Enfin, je sais pas.
Les attaques personnelles lui suffisent comme une affaire d'argument.
Je ne sais pas dans quel monde tu vis, mon cher Fred, mais je ne sais pas depuis.
Mais moi, dans le monde dans lequel je vis, on essaie d'aller en deuxième semaine, on essaie de faire des performances. Et on ne fait pas des pifs et de mètres en gagnant un match.
Non, mais d'accord.
Et donc, en perdant contre un but centième.
Depuis combien d'années tu t'es pas dit sérieusement, oula, le Français, il a une chance de remporter Wimbledon. Vraiment, c'est quoi un Wimbledon réussi? C'est deuxième semaine.
Non, mais je te parle d'aller au moins en deuxième semaine.
Au moins en deuxième semaine. Un match de plus,
ça change vraiment tout. Ouais. Oui, ça change quelque chose vas en deuxième semaine. C'est quelque chose d'important pour le tennis. Et j'en ai marre.
Chaque année,
c'est des épiphénomènes, moi, je suis désolé.
Chaque année, avec le tennis français, tu sais qu'on va vibrer, mais tu sais qu'il ne faut pas rêver. Voilà, c'est tout. On s'est abonné, on s'est habitué, mais abonné, tu vois.
Donc, il ne faut pas rêver. Ça sauve quand même.
On s'est habitué à cet héroïsme fragile, voilà, l'exploit sans lendemain. Tu bats une star du tennis et tu te fais cirer au tour d'après. C'est so French, disent nos amis anglais. Pas, voilà, on cherche le frisson. Mais voilà, on sait qu'on trouvera pas le trophée au bout de la route. C'est on s'y est habitué.
Mais le trophée, on le sait depuis longtemps, effectivement.
Ça rend pas la victoire de Rinderknecht moins belle face à Zverev.
Mais c'est une très belle victoire. Mais quand tu perds sur le tour suivant,
a posteriori,
c'est pas mal quand même.
A posteriori, tu ne te dis pas, j'ai pas vibré parce que il perd au coup d'après. Non, tu te souviens de la belle après-midi que t'as passé.
Ben je me rappelle que surtout si je commence à regarder Wimbledon, je verrai pas un Français.
Alizé Cornet, mais moi je me souviens qu'Alizé Cornet, elle avait battu Serena Williams en 2000, et elle perd contre Bouchard derrière. Bon, ben, ça n'a aucun sens. Humbert, il avait battu Del Potro, pareil. Sur le papier, il avait aucune chance. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu sur les chances de Humbert? Et puis c'est pareil, il sort derrière. On s'y est habitué. Je ne comprends pas pourquoi on se fait croire qu'on attend autre chose.
Mais si on s'y est habitué, dans la question, c'est sauf qui la Wimbledon. Si on est habitué, ça sauve rien du tout. C'est juste la continuité. Alors, c'est juste repousser une échéance. On gagne contre un gros, on est content. Et le lendemain, c'est tapé par n'importe quoi.
On se souviendra
de rien du tout, parce qu'on se rappelle que de ceux qui vont un peu plus loin.
Alors, juste avant d'écouter Pascal, il y a Eric qui est toujours avec nous en direct de Londres. Tout de même, Eric, est-ce qu'il y a eu un petit frémissement français? Parce que c'est vrai qu'on le disait, on ne s'attendait pas à cette première partie de semaine. Alors oui, il y a peut-être plus de français, mais franchement, il s'est passé quelque chose quand même.
Il s'est passé plein de choses et je pense qu'on a raté le gros coup avec Giovanni Pichipiricard, qui passe vraiment tout près de battre Taylor Fritz. Alors il peut s'en vouloir parce que quand on mène 5-1 dans l'intervalle du quatrième, avec le service qu'on a, normalement c'est l'autoroute du soleil. Et si s'il avait gagné ce match, je pense qu'on n'aurait pas ce débat. Je pense que Giovanni serait là encore dans le tournoi avec des vraies ambitions. Donc vous voyez, le coup est passé vraiment très près, malheureusement.
Et Humbert, c'est Ogier Aliassim qui bat. C'est pas Del Potro, je crois, mais.
Oui, c'est Poul qui a battu Del Potro, il me semble.
Très bien, Pascal.
Oui, mais il a.
Moi, je voulais juste dire à Fred que, bien sûr, puisqu'il ne regarde pas les matchs, il ne peut pas avoir d'émotions. Mais laisse-nous avoir des émotions parce qu'on les a regardées.
Autant certains sports, je n'aime pas que je ne regarde pas. Le tennis, je regarde. Et c'est un mauvais choix. J'ai des émotions, mais ça ne sauve pas. Une émotion, ça ne suffit pas pour nous sauver une.
Non, mais si tu as regardé Arthur, je vais faire l'économie du nom parce qu'il est dur à prononcer. Si tu as regardé Arthur contre Zverev, c'est quand même la tête de série numéro 3, Zverev. Ouais. Bah, si tu n'as pas pris du plaisir et si tu n'as pas vécu des émotions en regardant ce match-là.
Mais bien sûr, mais est-ce que tu penses qu'Arthur.
Mais quand il regarde son tableau, tu penses qu'il se dit tiens, c'est bien, ça va être crème, je vais gagner contre Zverev.
Bien sûr.
C'est exceptionnel.
C'est génial, c'est cool, on est content de voir gagner.
Julien Benneteau.
Ça aurait pu être bien pire. En début de semaine, il y a eu un frémissement français, à la fois chez les hommes et chez les filles, parce que Jacques Mau qui se qualifie, qui passe le premier tour, Diane Paris qui se qualifie, qui passe deux tours, Bonzi, Rinderknecht qui bat des top 10 au premier tour, en grand chelem, c'est rare. Donc il y a vraiment eu un frémissement et on n'oubliera pas ces victoires, ça reste des beaux souvenirs et ça peut même être pour certains quelque chose qui vont les aider pour aller plus loin à l'arrivée. quand le vendredi de la première semaine, il n'y a plus personne, bon, bah, c'est un peu un bilan maussade, on va dire. Voilà.
Ouais, j'ai l'impression qu'on construit les tremplins depuis de nombreuses années quand même, hein, parce que des performances de temps en temps ponctuelles, ça arrive, mais des vrais résultats, ça n'arrive pas. Donc moi j'en ai marre des tremplins, je veux des résultats.
Non, en fait ça dépend vraiment des circonstances. Ça dépend, et Eric l'a rappelé en grand chelem, il l'a rappelé avec Mpetchi, parce qu'il joue Fritz au premier tour, mais derrière le tableau saut.
Ouais.
En grand chelem, t'es tête de série ou t'es pas tête de série, il y a des parties de tableau, ça s'ouvre, c'est, il y a vraiment des, une différence énorme.
Bah, si tu bats une tête de série, après, en aussi, effet, tu peux te faire.
Non, mais, tu vois, par exemple, Bonzi. OK, il bat Medvedev. Hmm? Mais derrière, il se prend Thompson. Thompson, le grand public le connaît pas, mais Thompson sur gazon, c'est un enfer. Le mec, il joue super bien. C'est aussi dur que Medvedev. C'est aussi dur que Medvedev. Donc, le fait que
Herbert, il y avait même moyen de faire mieux, c'est ce que tu veux nous dire.
Herbert, 18e mondial, il a pas de peau, c'est horrible pour lui de tomber contre Gaël Monfils au premier tour. C'est horrible parce que Gaël, il est pénible, franco-français, c'est dur. Pareil, Hugo Humbert, pour moi, il a largement le niveau, le tennis sur gazon, gaucher, il joue bien, il a déjà gagné un 500 sur gazon pour aller en deuxième semaine largement de Wimbledon. Donc, il y a aussi une part de réussite dans le tableau.
Et pour le coup, dans le tableau, on l'a assez répété, le tirage au sort n'était absolument pas favorable et on s'attendait pas à voir d'aussi belles performances de nos Français. C'est quand même important de le souligner ce matin dans les GG. Eric, bon, il y a plus de Français, mais fais-nous un petit peu saliver avec ce week-end à Wimbledon.
Non, moi je suis dans la déprime comme Zverev. Je regarde plus le tableau. Non, mais évidemment qu'on a tous envie de, on va suivre les stars parce que on peut avoir une demi-finale Sinner Djokovic dans le bas de tableau. Alcaraz, je vois pas qui peut le stopper, à moins que Fritz sort le match de sa vie. Mais la fin de semaine peut être extraordinaire. Mais lundi, mardi, mercredi, j'avoue que ça va être compliqué. Là, parce que quand on regarde les noms, j'ai du mal à m'intéresser.
Et dans le tableau féminin, c'est pareil, hein, c'est même pire, non?
Ouais, mais il y a encore des beaux matchs. Tout à l'heure, on a un Swiatek Collins qui m'intéresse parce que l'américaine, elle n'aime pas trop la polonaise. Il y aura des étincelles. Mais hier, il y a eu un très beau match entre Zabalenka et Raducanu. C'était fantastique.
Ok, merci beaucoup Eric, sors de ta déprime tranquillement et on te retrouvera très vite sur RMC évidemment.
J'ai le même cycle que Zverev.
Il va aller manger des fraises et voir du film, c'est ça ira
ce
bien.
Matin, sachez que la Nouvelle-Zélande mène 31 à 27, il reste 6 minutes, on va retourner voir Julien Richard dans quelques instants.
Les preuves qui sont pas sereins, c'est que depuis le début du match, les pénalités, ils vont en touche. Et là, il reste 5-6 minutes. Et là, ils ont pris les points pour mettre les Français à 4 points.
T'as envie qu'on parle avec Julien Richard, j'ai bien compris. Julien Richard, les Bleus sont tout près d'un exploit, c'est encore possible.
Cette équipe un peu de briques et de broc regarde droit dans les yeux les All Blacks. Il y a 4 points, effectivement. Ils ont choisi pour la première fois de la partie de prendre les points alors qu'ils auraient pu taper en touche et essayer d'aller marquer un essai. Il y a eu une petite discussion et le capitaine Savea a indiqué les poteaux. 4 points d'avance pour les All Blacks qui ne sont pas à l'abri d'un essai transformé ou d'un essai tout court de cette équipe de France dans les dernières minutes. Il reste 6 minutes à jouer, 31-27 pour les All Blacks.
J'ai l'impression qu'on vient de trouver un nouveau consultant rugby avec Julien Beneteau, assez ciselé.
C'est meilleur que Denis Charvet.
Tu te compares aussi. Ouais, 10h48, on se retrouve dans quelques instants pour les GG contre-attaque. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h50 de retour dans les grandes gueules du sport avec Pascal Duprat, Julien Beneteau, Fred Veil, Simon Dutin. Nous allons bouleverser un petit peu notre programmation car c'est très très serré entre la France et la Nouvelle-Zélande. Premier test match, il reste quelques minutes. Ballon bleu, Julien Richard.
Oui, avec Gaël Ficou sur l'aile, les Bleus sont menés de 4 points, 31-27. Il reste 3 minutes et 30 secondes à jouer. C'est peut-être le ballon de la gagne. Ça veut dire que s'il marque, les Français, ils passeront devant alors qu'il restera très peu de temps à jouer. Guillard maintenant, malheureusement, Taofi Fenois qui échappe le ballon et Pierre Bourgaric derrière qui ne peut s'en saisir. Dommage en avant parce que là c'était une action et pour un des rares ballons pour cette équipe de France en seconde période dans le camp de la Nouvelle-Zélande. Ils ont avalé des vagues All Black tout le long de cette deuxième période. Ils ont tenu bon, les Bleus. Ils ont même encaissé 2 essais qui ont à chaque fois été invalidés à la vidéo. Ils ont été réduits à 14 contre 15 après un carton jaune de Gabin Villiers, mais ils ont résisté pour tenir ce score. Imaginez, on les traitait de touristes, la presse néo-zélandaise avant le match parlait de touristes puisque
puisqu'on sait que cette équipe de France, ce ne sont pas l'équipe premium, les joueurs premium qui ont été laissés au repos en France. Voilà. Peut-être qu'ils se sont aussi nourris de tout ce qui a été dit avant ce match pour essayer de créer l'exploit. Ce serait un véritable exploit. On le rappelle, l'équipe de France, la dernière victoire sur le sol néo-zélandais, c'était en 2009 à Dunedin. Alors c'était pas ce stade, c'était un autre stade, mais c'était dans la même ville. On n'en est pas encore là. Il va rester 2 minutes à jouer, JC, oui, dans cette rencontre. Mêlée pour les All Blacks, introduction pour les All Blacks avec un joueur qui a été énorme, hein, d'ailleurs pour les néo-zélandais, Cam Royegaard, le demi de mêlée qui lui est sorti et a laissé sa place à Cortez Ratima, mais vraiment il a été monstrueux. Et la mêlée qui est sanctionnée, pénalité pour les All Blacks qui vont pouvoir tranquillement se dégager et taper le plus loin possible, sortir de leur moitié de terrain. Très certainement, ils se congratulent, les Blacks d'ailleurs. Il reste 1:30, 31-27, certainement une touche avec un lancer pour les Blacks et le dernier ballon à suivre pour pourquoi pas essayer d'aller le gratter côté français, de remonter le terrain. Mais là ça paraît compliqué, les Blacks tiennent peut-être leur victoire, mais elle aura été très très difficile. 1:30 à jouer, 4 points d'avance, 31-27 pour les Néo-Zélandais face à l'équipe de France, et c'est Boden Barrett qui a le ballon.
Et il reste un peu plus d'une minute avant la sirène. On espère que les Bleus vont réussir à récupérer le ballon. Pourquoi pas une dernière offensive? On rappelle que le 15 de France ne s'est imposé dans son histoire que 4 fois en Nouvelle-Zélande. C'est dire la portée de l'exploit. Ils ne sont qu'à 4 points, Julien Beneteau. On ne s'attendait pas à ça.
Ouais, vu l'équipe qui avait été mise en place. Mais bon, honnêtement, encore une fois, Galtier et son staff, depuis qu'ils sont là, il arrive à être performant tout le temps, que ce soit avec des victoires ou avec des défaites très serrées dans l'hémisphère sud pendant l'été. Et il arrive quand même à donner une espèce d'ossature, une organisation, qui font qu'ils sont toujours efficaces, ces Français, et ça fait plaisir.
Allez, les dernières secondes avec Julien Richard.
Et 8 joueurs auront décroché leur première sélection en équipe de France sur cette rencontre. Même s'il y a une défaite, eh bien ils s'en souviendront. Il reste 30 secondes à jouer et les All Blacks vont certainement garder le ballon au chaud puisqu'ils ont récupéré le ballon sur la touche avec un lancer néo-zélandais. On est sur la ligne médiane, complètement collé à la ligne de touche. Il reste 15 secondes. Nouveau temps de jeu. Le demi de mêlée remplaçant qui envoie une nouvelle fois ses avant, qui vont garder ce ballon au chaud. Allez, là, ils seraient bien inspirés d'aller le gratter, mais ils font pas de faute, évidemment. Ils font pas de faute, les Néo-Zélandais. 3, 2, 1, c'est terminé. Ils vont sortir le ballon des limites du terrain. Voilà ce qui indique les joueurs. Et Boden Barrett sort ce ballon des limites du terrain. C'est terminé. Victoire de la Nouvelle-Zélande, 31-27. Mais cette équipe de France a tenu la dragée haute à cette équipe néo-zélandaise. On leur promettait l'enfer. Alors, certes, il y a une défaite, mais bravo à cette équipe de France qui vraiment à regarder droit dans les yeux, les All Blacks.
Ouais, et quand on voit cette fin de match où la Nouvelle-Zélande, les All Blacks, peu rassurés, on les voit se congratuler, ils ont eu peur. Hein.
Ouais, je pense qu'ils ont eu peur. Après, j'ai peur pour samedi prochain, parce que là, c'était le premier match de la saison. Je pense que les Blacks ont un peu. Je pense qu'en plus, il va être obligé de faire un peu tourner Galtier, donc avec encore une équipe remaniée, etc. Et après, par contre, sur le troisième test, il y a quelque chose à faire. Donc, on va voir la suite de cette série qui est intéressante. Mais oui, les Blacks, on les sent soulagés, mais pas rassurés.
Ouais, on a envie de dire déjà une victoire sur les trois. Non, mais une victoire sur les trois, ce sera déjà très beau pour
les 15 4 fois dans l'histoire là-bas. Donc, oui.
Simon.
Oui, en effet, ça vaudrait une victoire dans un tourne destination ou c'est une ligne au palmarès du 15 de France dans un sport qui fonctionne un petit peu différemment et dans lequel il n'y a pas forcément des coupes qui comptent. Ouais.
Je crois que la dernière série de tests qui a été gagnée là-bas, c'est en 94 avec Philippe Saint-André notamment, mais autrement de gagner un match là-bas, un test.
À une époque, Julien, on le rappelle, où on envoyait les meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs de la France faisaient le voyage.
Vous savez quoi, les amis, on en reparle à 11h45, ok, de cette rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande, les Bleus qui sont passés tout près de l'exploit, défaite donc au final 31-27. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. On se rendra de nouveau à Lille pour le grand départ du Tour de France aujourd'hui, Tour de France 2025. On parlera des Français. Faut-il se satisfaire d'exploits sans lendemain? Oui ou non, les GG ne sont pas d'accord et on sera évidemment avec le GOAT. Christophe Cessieux, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.